48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bien le bonjour à tous, bienvenue en direct pour le Mag de 48 FM, une 62e émission, tous les mardis vous en avez l'habitude de midi et demi à 1h30, avec aujourd'hui à mes côtés Aurélie, bonjour Aurélie.
Bonjour Ludo, bonjour à tous.
Voilà, toujours trois invités, trois sujets complètement différents. Alors tout d'abord, il y a monsieur Maxinier qui est ici, le directeur de la mission locale Lozère, pour parler de plusieurs thèmes, de plusieurs sujets, dont celui qui va forcément nous intéresser, c'est le TAF qui a lieu ce jeudi. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Et également, en troisième invité qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va venir tout à l'heure, c'est Laurent Ciot pour la Fédération de pêche. Donc s'il a du retard, vous pourrez nous glisser quelques mots
sur ce sujet
que vous connaissez. Également ici, Sébastien Oziol, le directeur de Lozère Développement. On va parler économie pendant ce mag avec beaucoup d'actualités pour Pollen et Lozère Développement.
Oui, bonjour. Effectivement, beaucoup d'actualités parce que beaucoup de projets accompagnés.
Des projets qui vont permettre de proposer des emplois à nos jeunes peut-être qui en recherche. C'est d'ailleurs le premier sujet avec ce TAF qui a lieu ce jeudi. Peut-être avant d'en parler, rappelez-nous succinctement quelle est la mission, je pourrais dire, de la mission locale.
Ah, les fonctions, missions de la mission locale Lozère, comme de toutes les missions locales de France d'ailleurs, qui sont au nombre d'environ 450 réparties sur le territoire national, la mission locale Lozère étant la seule mission locale sur le département. Donc elle a une couverture départementale. Donc quelles sont ses attributions? Donc la mission locale Lozère a pour objectif d'accompagner, d'informer, d'orienter et d'accompagner les jeunes vers la qualification et vers l'emploi. Mais en s'attachant en particulier, et ça c'est important, à traiter l'ensemble des freins qui peuvent pénaliser l'accès à la qualification et à l'emploi. Et ces freins, quand on est jeune, c'est d'abord la vie économique quotidienne. Comment on se nourrit, comment on se loge, comment on s'habille, etc. Ce sont les besoins essentiels. Tant qu'on n'a pas satisfait ces besoins essentiels, on ne peut pas se projeter dans un projet de qualification et d'emploi. C'est ensuite l'accompagnement aux soins, l'accompagnement au logement, l'accompagnement à la citoyenneté. Donc vous voyez que on parle donc d'accompagnement globalisé, les missions locales étant, on va dire, les ensembliers de l'accompagnement des jeunes. Mais c'est vrai que, et j'insiste sur ce point, le conseil d'administration de la mission locale Lozère a pour premier objectif de travailler sur l'accès à la qualification et à l'emploi. Et donc nous avons une offre de services qui est à la fois dirigée vers les jeunes, bien entendu, qui sont les premiers bénéficiaires de notre action, et je dirais l'objectif ultime, bien sûr, concerné par notre objectif ultime, et une deuxième offre de services à destination des employeurs, que ce soit des employeurs du secteur marchand ou des employeurs du secteur non marchand, puisque nous sommes en particulier habilités à prescrire les contrats aidés par l'État, dont les emplois d'avenir au premier chef.
C'est un travail de longue haleine avec ces jeunes, tout cet accompagnement, ça peut durer plusieurs mois, voire peut-être plus.
Alors, c'est un travail de très longue haleine, d'autant plus que nous avons sur ce département, et j'en parlais dans une réunion là ce matin à nouveau, j'insistais sur ce point, quelques aspects, quelques freins relatifs à la mobilité des jeunes, mais qui n'est pas simplement que le fait de ne pas pouvoir disposer d'un moyen de transport, soit personnel, soit à proximité. Il y a aussi la capacité de se projeter dans un projet qui va vous amener à vous éloigner de la famille, du cercle familial, de la bande de copains, du village, du canton, etc. Donc ça suppose un travail de longue haleine. Et il faut savoir qu'à la mission locale, l'accompagnement moyen des jeunes est de 25 mois. Donc vous voyez, c'est énorme.
C'est énorme. Énorme.
Et nous accompagnons globalement entre 1450 et 1500 jeunes par an. Donc vous voyez que pour notre département, c'est ce qu'on appelle un taux de couverture qui est très, très, très important.
Et quand vous dites jeunes, quelle est la fourchette?
Alors la tranche d'âge, c'est 16-25 ans, 25 ans révolus, c'est-à-dire jusqu'à la date anniversaire de 26 ans, sachant que les 16-18 ans, donc les mineurs, représentent 6 à 7% du public jeune que nous suivons. Donc vous voyez, c'est très très minoritaire.
Et pour ces jeunes qui sont en recherche d'emploi, il y a justement donc ce jeudi le travail et avenir formation, le TAF, c'est ça? qui est arrivé en Lozère, enfin, qu'on a mis en place depuis quoi, deux, trois ans.
Alors, c'est la septième émission, c'est la septième édition du salon Travail, Avenir, Formation Lozère. Donc, sachant que il se décline dans les 5 départements de la région, la même, les mêmes salons, mais à des dates différentes. Donc, c'est un salon qui est organisé sous l'égide du Conseil régional Languedoc-Roussillon, avec, mais en co-organisation avec Pôle emploi, la commune de Mende et la mission locale Lozère. Et on retrouve donc sur ce salon, hein, traditionnellement, donc un espace à IO, accueil, information, orientation, où on va retrouver l'ensemble des organismes qui font cet accueil, cette information d'orientation des demandeurs d'emploi. Nous allons retrouver un espace, formation, pardon, où nous avons à peu près une trentaine d'établissements de formation du département, mais également des établissements hors département qui viennent de la région pour que les demandeurs d'emploi, les jeunes, moins jeunes, etc., puissent découvrir l'offre de formation locale. Donc c'est très important. On y a en particulier les CFA, puisque l'alternance est aussi un secteur à développer et qu'il est important de développer. Et un espace recrutement avec où on va retrouver donc des entreprises, une soixantaine d'entreprises à peu près qui seront présentes pour grosso modo entre 250 à 300 offres d'emploi à valoriser. Et sur cet espace recrutement, cette année, nous allons avoir un sous-espace, entre guillemets, emploi d'avenir, où nous aurons des employeurs qui recrutent des jeunes emplois d'avenir. Autre nouveauté sur cette septième édition, et c'est important de le préciser, Sébastien Auziol y reviendra certainement, avec la région et Pôle emploi, nous avons souhaité créer un espace création d'entreprise, création ou reprise d'entreprise, parce que la reprise d'entreprise est aussi très très importante pour notre département, parce qu'on a un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont vieillissants, qui souhaitent céder leur entreprise, donc la reprise est à traiter absolument. Et là, nous aurons l'ensemble des organismes qui font de l'accompagnement à la création d'entreprise. Et les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur entreprise pourront là venir rencontrer tous les organismes dédiés à cette thématique-là.
Alors justement, ce rendez-vous, on va être un peu pratique. Où et quand ?
Alors, c'est le jeudi 27 février, donc après-demain, de 9h à 17h non-stop à la Halle Saint-Jean, à Mende.
D'accord, donc très facile de vous rejoindre puisqu'il y a tout un parking, fait. C'est très pratique.
Voilà.
Voilà, on est en ville.
C'est intéressant pour une agence de développement économique comme la vôtre, ces salons d'emploi.
Alors bien entendu, parce que l'objectif de l'agence, quand même, c'est au-delà d'accompagner des projets, des entreprises, c'est que ces entreprises créent des emplois, recrutent dans le département et que ces recrutements, en plus, suscitent de l'accueil de nouvelles populations, puisque c'est quand même derrière l'agence de développement, le conseil général et sa politique d'accueil de nouvelles populations qui nous préside, hein, donc oui, c'est important le taf cette année. Pour la première fois, on y participe, on y est invité. C'est une très bonne chose parce qu'on a des projets qui recrutent. Alors bon, évidemment, au début de la création d'une entreprise, on ne crée pas forcément des dizaines d'emplois la première année. Mais le premier emploi est déterminant, il ne faut pas le rater parce que ça peut vraiment sceller l'échec de l'entreprise, hein, le premier recrutement. Même le premier recrutement arrive des fois un peu tard. Et dans une dynamique de création d'entreprise, ce qui précède ce premier recrutement, c'est la constitution d'une équipe. Et même là, le TAF, il a un intérêt. Il permet aux personnes qu'on accompagne, à nos créateurs, aux entreprises extérieures à la Lozère qui souhaitent s'installer dans le département, puisque c'est aussi des métiers de l'agence, d'identifier des compétences en Lozère qui peuvent les aider à porter les projets avec elles en équipe. Et ça, le TAF, c'est un bon rendez-vous pour ça.
Vous êtes souvent en lien avec des organismes comme la mission locale ou Pôle emploi
Alors, avec Pôle emploi, oui. C'est quasi systématique sur les projets qu'on accompagne. La mission locale, moins, parce qu'on a peut-être moins affaire à des jeunes. Les jeunes qu'on accompagne sont pas forcément peut-être accompagnés par la mission locale. Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, on a peu de relations systématiques sur les jeunes. On est complémentaires, en fait, peut-être pour ça.
Alors, sur les opérations qui ont été conduites sur le département, je pense à la start-up et dans le pré, par exemple, où vous avez effectivement mis en œuvre de l'accueil de jeunes entrepreneurs. C'est vrai que le jeune qui veut créer son entreprise est plutôt un jeune plutôt très qualifié. Et c'est vrai que nous, les jeunes plutôt très qualifiés, c'est-à-dire au-delà du niveau 3, constituent une minorité de nos jeunes. C'est 12%, voilà, pour être tout à fait clair, des jeunes que nous accompagnons. Donc c'est vrai que nous ne nous situons pas, nous, très clairement sur ce créneau-là. Ceci étant, nous orientons systématiquement lorsque le jeune souhaite créer une entreprise. Ça peut, effectivement, on en reçoit quand même, hein, bon, normalement, chaque année quelques-uns. Nous les orientons vers les structures compétentes parce que, très franchement, nous n'avons pas l'expertise d'accompagnement et les outils d'accompagnement. Donc on préfère s'appuyer sur le réseau, sachant que nous sommes dans un petit département. Les interlocuteurs, les différents opérateurs se connaissent, travaillent ensemble en interconnexion. Voilà. Donc nous préférons orienter ces jeunes vers les structures compétentes.
Ouais, du coup, ce salon, ce TAF, il s'adresse à tout le monde, aux jeunes avec peu de qualifications, aux jeunes qui ont plus de qualifications, qui veulent créer une entreprise. Enfin, c'est ouvert vraiment à toutes sortes de jeunes.
Alors, il est ouvert à tout public demandeur d'emploi ou personne qui recherche une formation ou qui souhaite se requalifier ou modifier sa qualification ou changer de qualification pour découvrir l'offre de formation. Donc, pour ce qui est du flux des demandeurs d'emploi, pour être mis en relation avec ou des personnes qui recherchent une information sur la formation, on va traiter l'ensemble du flux. Il n'y a pas besoin de, si vous voulez, tout demandeur d'emploi qui arrivera pour rechercher une offre ou pour rechercher une offre de formation ou une offre d'emploi pourra voir l'entreprise, pourra voir les offres d'emploi, pourra voir les organismes de formation, etc. Sur l'espace création d'entreprise, c'est vrai que ce sera un peu plus ciblé, c'est-à-dire que seront mis en relation les personnes qui ont vraiment un projet de création. On ne sera pas en capacité, en plus, cet espace sera sur l'estrade de la Halle Saint-Jean, on sera pas en capacité d'accueillir tout le flux de personnes qui viennent pour avoir une information, mais sans être forcément déterminé, parce que pour des raisons de sécurité, de gestion des flux, etc. Il faut savoir que le TAF Lozère, sur la journée, c'est 1500 personnes. Voilà, donc il faut que, par rapport à cet espace-là, nous fassions un minimum de filtrage. Donc il y a des îlots hein, qui seront composés d'un tandem conseiller Pôle emploi, conseiller mission locale, qui feront l'aiguillage des demandeurs d'emploi, des personnes qui recherchent une formation ou des personnes qui souhaitent créer une entreprise. Et nous aurons également des jeunes étudiants du lycée Chaptal, donc qui feront également de l'orientation et de l'accueil.
D'accord. Une opération comme celle-ci, ça vous ramène des jeunes également qui ne connaissaient peut-être pas votre structure et qui se disent « Tiens, ben, ils peuvent m'apporter de l'aide ?»
Ah, bien sûr. Bien sûr, puisque nous faisons sur le TAF, nous avons, nous, Mission Locale Lozère, comme les autres structures, comme je l'ai dit, de l'accueil, de l'information, de l'orientation, un stand sur... Alors, nous avons, bien sûr, nous sommes sur l'espace recrutement en particulier, mais nous aurons également un stand sur l'espace AIO, accueil, information, orientation, et nous faisons chaque année, à l'occasion du TAF, nous faisons des premiers accueils, c'est-à-dire que nous accueillons des jeunes que nous ne connaissons pas et qui viennent s'inscrire à la mission locale. Donc, c'est vrai que c'est pour nous très intéressant en termes de repérage et de communication sur notre offre de service à leur destination.
Ce sont combien de jeunes, en gros, que vous gérez sur le département ?
Alors, en premier accueil chaque année, hein, ce qu'on appelle les primo-accueillis, ça représente entre 750 et 800 jeunes. Et donc, sur la totalité du 1er janvier au 31 décembre, de nombre de jeunes suivis, donc qui peuvent avoir été inscrits l'année d'avant, enfin, etc., nous sommes sur un nombre de jeunes, comme je vous l'ai dit, qui est entre 1450 et 1500 jeunes par an.
Alors pour ces jeunes, vous avez un formidable outil depuis l'an dernier, c'est les contrats d'avenir, les emplois d'avenir. Alors on sait que le département de la Lozère, en 2013, a dépassé largement ses objectifs, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Nous avions une enveloppe allouée par l'État entre Pôle emploi et la mission locale qui était de 145 emplois d'avenir, donc 138 pour la mission locale et 7 pour Cap emploi, puisque Cap emploi est également prescripteur pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et pour ce qui concerne... Nous avons fait globalement 175 emplois d'avenir, tout compris. Pour la mission locale, on en est à 170-171. Hein, voilà, on est sur cet ordre d'idées. Sachant que par contre, notre petite difficulté sur le département, c'est d'intéresser les entreprises du secteur marchand. Nous sommes en dessous de la moyenne nationale, puisque nous avons prescrit 8% d'emplois d'avenir dans le secteur marchand, donc 92% dans le secteur dit non marchand, principalement associations, collectivités, autres établissements publics, etc. Donc il y a certainement un effort à faire vis-à-vis des entreprises du secteur marchand qui n'ont peut-être pas... parce que l'arrêté du préfet de région était un peu resserré sur certains types d'activités au départ. Désormais, il est très très ouvert. N'importe quelle entreprise du secteur marchand dit concurrentiel peut recruter un jeune dans l'emploi d'avenir, sauf les activités saisonnières et l'intérim. Donc vous voyez que c'est largement ouvert. Ce sont quand même des contrats à temps plein, pendant une durée minimale de 3 ans, ou en CDI. Donc ça peut être, c'est à la fois très intéressant pour le jeune, bien entendu, puisqu'en plus, il y a un engagement de formation de la part de l'employeur. Et cet engagement, nous le suivons avec l'employeur, puisque nous faisons l'accompagnement durant la phase d'emploi pendant les 3 ans de l'emploi d'avenir. Nous faisons un accompagnement régulier auprès du jeune employeur. Et nous vérifions que les préconisations ou que les indications en termes de formation, accès à la formation et à les qualifications soient respectées. Donc c'est une véritable opportunité pour le jeune, mais c'est aussi une opportunité pour l'entreprise d'avoir un jeune avec un coût salarial quand même réduit et qu'elle va pouvoir qualifier avec l'aide d'un tuteur désigné au sein de l'entreprise. Donc c'est quand même un dispositif très très intéressant et qui pour le moment donne d'assez bons résultats.
Oui, en plus on peut imaginer une assez forte motivation justement de ces jeunes et une envie d'apprendre, de s'intégrer. J'imagine que, enfin je ne sais pas quel retour vous avez des aujourd'hui, mais ils doivent quand même être très motivés pour cette première porte qui s'ouvre.
Ben, si vous voulez, lorsqu'on parle des emplois d'avenir, oui, actuellement, c'est vrai qu'on se focalise sur le résultat en termes quantitatifs. Oui. Alors c'est vrai que c'est important. On est en avance, certes. Mais comme je le dis chaque fois, ce qui est important pour nous, pour l'équipe, et ce qui donne vraiment du sens au travail, c'est de permettre à un jeune, pendant au moins 3 ans, pour un salaire au minimum au SMIC, parce que dès qu'il est dans une entreprise ou une convention collective, la convention collective s'applique, à temps plein, d'avoir un emploi et une formation. Enfin, attendez, c'est quand même... alors qu'on sait que les jeunes sont surtout peuvent être pénalisés par des emplois qui sont précaires, qui sont parfois peu qualifiés, enfin, etc. Là, ça va lui donner de la visibilité. Ce qui manque un peu à la jeunesse en France par rapport à l'emploi, c'est d'abord l'accès à l'emploi et puis après la visibilité. Pouvoir se projeter pendant 3 ans, c'est énorme. On peut faire un projet de vie, on peut faire un projet social, familial, on peut faire un projet citoyen. C'est ça qui est important. Et c'est le sens de ce dispositif. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien. Parce que d'une part, les jeunes sont intéressés. Les entreprises ou collectivités, associations également sont intéressées. Mais les équipes et les opérateurs sont eux-mêmes, trouvent un sens à cette action et sont du coup très, 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 très motivés pour mettre en œuvre ces emplois d'avenir.
Sébastien Auziol, on va parler avec vous de projets innovants tout à l'heure. Il y a de ces entreprises innovantes qui font appel à ce type de contrat ou d'autres contrats aidés quand ces entreprises démarrent et n'ont pas forcément un fonds de roulement suffisant pour de suite embaucher en CDD, CDI, etc.
Oui, le plus possible, on essaie de les orienter vers ces outils. Mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité des recrutements qui ont lieu dans les entreprises qu'on accompagne. Enfin, il n'y a pas de règle, en fait. S'il y a une opportunité de faire financer un emploi par un dispositif quel qu'il soit, bien entendu, on est là pour conseiller l'entreprise et pour qu'elle puisse en bénéficier. Mais ce qui justifie la création d'emploi n'est jamais là. Et on est souvent dans une approche marketing de la création d'emploi. Il faut qu'il y ait un besoin marché, qu'il y ait une justification au recrutement. Et après, on active les outils.
Comment expliquer ces seuls 8% du secteur marchand, vous qui êtes dans ce milieu-là? Est-ce que vous, par exemple, vous y voyez une explication?
Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais je pense quand même que vous rapportez ça à la part de l'emploi marchand déjà par rapport à l'emploi global. On n'est pas forcément très éloigné des ratios, j'imagine.
En Lozère, oui.
Mieux que moi, en Lozère. Mmh.
Alors, il y a peut-être une explication. C'est qu'il faut savoir que la TPE en Lozère représente grosso modo entre 86-90% des entreprises, c'est ça, et souvent des entreprises qui n'ont pas de salariés. Et la difficulté, c'est de passer au premier salarié. Vous avez le chef d'entreprise, mais après, voilà, il faut recruter, il faut devenir chef d'entreprise, faire de la gestion de ressources humaines, et beaucoup d'entreprises ont du mal à passer le cap.
Et oui, et donc généralement, ces premiers emplois ne sont pas dévolus à des emplois aidés forcément. Peut-être qu'on cherche un second, une personne pour nous seconder, et donc ces contrats aidés peuvent venir après, par la suite. On sait que vous gérez aussi des contrats de génération. Ça, par contre, dans les TPE, l'artisanat, ça commence à marcher.
Oui, ça y est, ça commence à décoller, le contrat de génération. Je crois qu'une trentaine de contrats de génération qui ont été signés sur le département. Alors la mission locale n'est pas opérateur, hein, n'est pas signataire. C'est Pôle emploi qui signe les contrats de génération. Mais nous sommes directement intéressés puisqu'il s'agit de permettre le maintien d'un aîné dans l'entreprise ou le recrutement d'un aîné. Parce que ce n'est pas que le maintien, ça peut être aussi le recrutement d'un aîné et le recrutement d'un jeune avec une aide de 12 000 euros pendant 3 ans. Donc c'est quand même intéressant. Et ce qui est également intéressant et auquel les entreprises ne pensent pas forcément, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire que c'est de se projeter sur les années qui vont venir, de savoir quels salariés vont partir et comment je peux préparer le départ à la retraite de tel et tel salarié, voire même mon propre départ à la retraite, moi qui suis chef d'entreprise, et à ce moment-là, je peux recruter un jeune en pensant à la reprise, hein, mais ça peut ne pas être lui qui reprenne l'entreprise. Donc ça suppose de la part des entreprises un peu de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc de se projeter, d'anticiper un tout petit peu dans ce domaine, sachant que c'est toujours très très compliqué, les entreprises, quand elles recrutent, parfois c'est dans l'immédiateté, il faut aller vite. Elles sont parfois soumises à des délais qui font que ce type d'emploi, elles peuvent considérer qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Mais il faut insister sur ce fait-là. Le contrat de génération est quand même aussi, dans ce cadre-là, très 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 intéressant.
Très bien, merci beaucoup. On rappelle, pour avoir davantage de renseignements, vous pouvez vous rendre au salon TAF à la Halle Saint-Jean ce jeudi. Rappelez-nous les horaires.
Donc jeudi 27 février 2014, de 9h à 17h, non-stop, à la Halle Saint-Jean à Mandat.
Très bien, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on va parler d'économie juste après.
Always real, my attention always pure. Whatever people tell you, they'll never love you more. I wish I'd known to love you right before. That's the score.
FM Le Mag.
Allez, seconde partie de l'émission avec Laurencio qui est en avance, qui viendra nous parler dans la troisième partie de la pêche qui vient d'ouvrir sur les lacs, et il y a un peu plus d'actualité pour la Fédé de pêche de la Lozère d'ailleurs. Mais là, nous allons parler économie avec Sébastien Auziol, le directeur de Lozère Développement, qui a beaucoup de dispositifs, de projets innovants, en cours d'accompagnement en ce moment, Lozère Développement, c'est ça ?
Oui, en ce moment, on peut dire que depuis la création de l'agence en 2007, on a atteint pour le moment un pic. On a un nombre de projets accompagnés qui frôle la trentaine de projets. Alors, tous ne nous demandent pas autant d'investissement, de temps, mais actuellement, effectivement, pas mal de projets en cours d'accompagnement par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes.
Comment on peut l'expliquer, ça ?
On peut l'expliquer d'abord par une maturité de l'agence, qui est un dispositif qui était naissant ces dernières années, mais aussi par des efforts qui ont été conduits en prospection. Il y a quand même une particularité par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure en lien avec le salon de TAF, c'est que la spécificité de Lozère Développement, c'est d'aller chercher les projets à l'extérieur du département. Donc on accompagne assez peu les Lozériens finalement. On a vraiment pour mission d'aller chercher de nouveaux projets entrepreneuriaux, de nouvelles entreprises à l'extérieur de la Lozère. Évidemment, on s'adresse aussi aux Lozériens qui veulent créer des entreprises innovantes, mais la plupart des Lozériens qui ne sont pas dans ce genre de démarche s'adressent logiquement à la Chambre de commerce et d'industrie ou à la Chambre de métiers et de l'artisanat avec lesquels on est articulé sur la plupart des projets. Mais on concerne assez peu, finalement, les créateurs d'entreprises lozériens, en proportion en tout cas. Et la spécificité de Lozère Développement étant d'animer une pépinière d'entreprises innovantes, Amande, Pollen. Effectivement, on accompagne la création d'entreprises innovantes, donc quelques projets portés par des Lozériens. En ce moment, une trentaine, comme je vous disais, en tout.
Justement, une entreprise innovante, qu'est-ce que c'est par rapport à une entreprise classique ?
Pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup de définitions de l'innovation, et toutes nous concernent d'ailleurs, mais celle qui nous convient le mieux, en fait, c'est la définition marketing, en quelque sorte, de l'innovation, c'est-à-dire porter un projet entrepreneurial pour aller satisfaire un besoin du marché, mais un besoin en fait d'utilisateur au sens large, qui n'est pas satisfait ou qui est mal satisfait, ou qu'on va satisfaire de façon différente. Donc en fait, c'est une façon de se différencier en faisant du business, en faisant de l'économie, mais en se distinguant des autres. Et là, en fait, tout chef d'entreprise peut se reconnaître parce que tout chef d'entreprise essaie de se différencier de ses concurrents, d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Donc en fait, beaucoup de chefs d'entreprise innovent sans le savoir. Simplement, c'est une méthode. On n'improvise pas l'innovation. Ça se manage, l'innovation, dans une entreprise. Ça s'accompagne. Donc, quand l'entreprise est déjà créée, qu'elle est mûre, y a des dispositifs pour ça, que connaît bien la Chambre de commerce et d'industrie, notamment Lozère, avec les accompagnements proposés par BPI, puis l'Agence régionale d'innovation, TransferLR. Quand il s'agit de création d'entreprise, c'est aussi un peu différent. On va créer une entreprise sur un marché qui est inconnu. Et c'est là que, en fait, tout l'apport de l'accompagnement par Lozère Développement, c'est qu'on ne duplique pas un projet existant ailleurs en Lozère. Ce qu'on peut faire, par exemple, quand on crée une entreprise artisanale ou une entreprise de commerce de proximité, on sait que ça marche ailleurs, il suffit qu'il y ait une zone de chalandise, un bassin de population, bref, un marché, et puis on duplique parce qu'il y a un manque. Bon, ça, c'est une façon de faire qui crée beaucoup d'emplois, heureusement. C'est l'économie de proximité, ce qu'on appelle aussi l'économie résidentielle. Et nous, on s'occupe d'autre chose. On s'occupe d'une économie qui va essayer de satisfaire des besoins non satisfaits, d'inventer, de proposer de nouveaux services, de faire différemment. En tout cas, de ne pas dupliquer en tout cas, ce qui existe déjà.
D'accord, vous prenez les entreprises extérieures au département et hop, on les implante chez nous et comme ça, ça crée de l'emploi, pour c'est, vulgariser.
Oui, ça peut, enfin, si c'était si simple, ça serait bien.
Pas n'importe quelle entreprise.
Il y a une innovante. Étape importante, oui, innovante déjà, puis il y a une autre étape importante que vous n'avez pas mentionnée, c'est que, c'est pas on l'apprend, on la met en Lozère, c'est qu'on l'apprend, effectivement, on va la chercher ailleurs, mais surtout, on essaie de lui trouver des points d'ancrage en Lozère, on essaie de lui trouver des partenaires lozériens. C'est là, en fait, toute la clé de la réussite. Les projets qui réussissent en Lozère, dans ceux qu'on accompagne, sont ceux avec lesquels on arrive à faire prendre une greffe avec une entreprise du territoire. Parfois, il ne s'agit pas d'une entreprise, il peut s'agir d'un besoin institutionnel, d'une collectivité, d'un marché quelconque, parfois public, mais c'est peu souvent le cas. Plus généralement, c'est une entreprise de Lozère, du secteur marchand, qui agit sur un marché qui dépasse la Lozère et qui va identifier un partenaire duquel elle a intérêt à se rapprocher pour des raisons stratégiques. Et c'est là que ça fonctionne le mieux.
Et justement, si on continue sur la métaphore de la pépinière, quels sont les ingrédients, les éléments, le terreau dont ont besoin ces entreprises? Quels sont les éléments qui font qu'en Lozère, ça peut marcher?
Alors, le terreau, et c'est là que je rejoins M. Maguigné, c'est qu'on a besoin effectivement d'une jeunesse motivée, d'une jeunesse hyper dynamique. Nos créateurs d'entreprises, on les met immédiatement en relation avec des personnes qui ont des formations au marketing, des formations en communication, des formations en multimédia. C'est des compétences qu'il y a besoin maintenant dans toutes les entreprises naissantes et qu'il faut qu'on trouve, hein, parce qu'elles sont rares en Lozère en plus. Donc, en même temps qu'on accueille un projet de création d'entreprise, souvent il faut aller chercher les premiers salariés parce qu'on ne trouve pas forcément les compétences localement. Bon, nous, ça nous convient puisque notre mission, c'est d'aller chercher de nouvelles populations, de nouveaux habitants. Mais pour un porteur de projet qu'on accueille, c'est pas simple parce qu'il va falloir aussi résoudre le problème de son recrutement. Donc voilà, le premier gisement quand même, ça reste celui-là. Le premier besoin d'un projet, ça reste le facteur humain, quoi, qui est celui qui scelle vraiment la réussite du projet. Après, il faut bien d'autres ingrédients à la réussite d'un projet entrepreneurial. Hein. Évidemment, toute l'approche marketing, mais celle-là, elle est assez normée sur le plan méthodologique. Donc sur le plan humain, c'est plus compliqué.
Au niveau des gens qui travaillent à Lozère Développement ou à Pollen, vous avez des gens qui sont spécialisés dans divers domaines. Comment ça se passe? Ou une personne gère un projet de A à Z?
On a une organisation spécifique, bien sûr. Bon, on est une petite équipe. Hein. Actuellement, on n'est que 4. Là, par contre, c'est un point bas. On a été plus nombreux, mais on a beaucoup de projets. On n'en a jamais eu autant, mais on n'a jamais été aussi peu nombreux. Mais parce qu'en fait, on est organisé pour que ça fonctionne bien. Donc, on a une personne qui est dédié à l'identification des projets, à leur évaluation, mais aussi en fait à l'ingénierie de leur élaboration. En fait, toute l'alchimie de départ, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à faire se mettre des personnes en contact les unes avec les autres, d'élaborer des projets ensemble, cette alchimie, elle est fondamentale. C'est une personne dédiée à ça, à Lozère Développement, qui est chargée de projets, de prospection, qui navigue beaucoup, c'est Guillaume Latuyère, hein, qui navigue beaucoup à l'extérieur du département pour aller chercher des ressources pour la Lozère. Et puis après, on a une personne qui est plus dédiée à tout l'aspect communication, web marketing, parce que pour aller chercher des projets pour la Lozère, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, on travaille beaucoup sur Internet. Donc là encore, à l'agence, un poste dédié à la prospection. Et puis après, les projets sont accompagnés par un peu tout le monde selon les besoins des projets. Et c'est essentiellement moi qui joue ce rôle.
Alors justement, parlez-nous un peu de ces entreprises dont vous gérez un peu tout le développement en ce moment. Je sais que donc vous venez de le dire, il y en a pas mal. On a noté Omeo, Cobiv, des entreprises comme ça. Concrètement, ouais, expliquez-nous un peu.
Elles sont effectivement dans des secteurs toutes très différents. C'est là aussi la spécificité de l'agence, qu'il n'y a pas de vocation métier, il n'y a pas de thématique sur laquelle on met l'accent plus qu'une autre. Bon, évidemment, en ce moment, les projets agroalimentaires sont assez nombreux. On a accompagné récemment un projet dans le domaine du lait, hein, le projet de beurre dont vous avez déjà parlé.
Le projet on a reçu dans cette émission.
Voilà, oui. Le projet Mima Milk que vous avez goûté, donc vous avez pu vous régaler avec les beurres aromatiques de Mima Milk. Donc là, c'est un projet à forte valeur ajoutée. Pareil, on pourrait considérer que le beurre est un projet classique. On sait déjà faire du beurre depuis longtemps. Mais bon, là, il y a une différenciation marketing qui est assez forte avec un marché qui est recherché, qui est très spécifique, puisqu'il s'agit de la restauration haut de gamme et des épiceries fines. Donc, dans l'agroalimentaire, des projets en ce moment assez nombreux, dont celui-là qui est emblématique. D'autres projets dans le domaine de l'environnement, on a toujours quelques projets dans le domaine de l'environnement. La Lozère est très attractive pour ça, parce que la Lozère est un facteur d'image important pour les projets liés à l'environnement, sans pour autant que forcément on ait les ressources en face. Actuellement, par exemple, on accompagne le projet de M. Marshall dans le domaine des bioplastiques. La ressource pour ce bioplastique, elle n'est pas lozérienne, hein, c'est une fibre de roseau qui n'est pas cultivée dans le département, mais la Lozère donne une image à ce projet qui est forte. Plus le fait qu'on a réussi à trouver, avec, évidemment c'est le chef d'entreprise qui l'a fait, mais en tout cas on l'a épaulé dans tout ça, à trouver un partenaire industriel pour ce projet et à trouver des débouchés surtout. Voilà. Donc ce projet-là est aussi un projet qui tient beaucoup de place à la pépinière, parce qu'il y a du stockage, et du conditionnement, etc., des premiers échantillons. Actuellement, on accompagne, je ne vais pas vous les énumérer, je vous disais une trentaine, mais ce serait emblématique du moment où vous avez parlé d'Oméo qui travaille dans le textile. C'est un projet auquel on est attaché parce qu'à la clé, il y a une unité de production, en tout cas un petit peu de confection. C'est un projet qui a une dimension industrielle quand même. Donc là aussi, on met ce projet en relation avec des partenaires lozériens qui pourraient gérer, assurer une partie de cette confection. Le textile, on sait bien qu'il n'est pas en France et on ne va pas le ramener, nous, en France. Mais il y a une certaine cible, marché, qui correspond quand même à un niveau de gamme qui peut être produit en Lozère, au moins pour des finitions. Donc, Oméo développe une marque qui s'appelle Marlène Becker et les chiffonniers d'Aubrac. Et c'est du linge de maison. Et ce linge de maison, positionné haut de gamme, il peut être terminé ou il peut être fini dans le département.
Ces entreprises que vous accompagnez, elles restent en Lozère après, ou on a des pertes d'entreprises qui peuvent partir une fois qu'elles ont réussi leur développement économique ?
En général, il y a évidemment des pertes. Tous les projets ne réussissent pas, bien sûr. Mais on ne perd pas des projets une fois qu'ils ont pris. En fait. L'échec a lieu avant. Et d'ailleurs, il y a une réorientation. On sent venir l'échec. Une fois que l'entreprise est installée, que ça tourne. Au contraire, là, c'est aussi parce que c'est la Lozère, mais il y a un ancrage. On est plus difficile à extraire de la Lozère parce qu'on a tissé son réseau, on s'est installé, on a créé sa vie dans le département, et c'est plus difficile après d'en partir parce que tout simplement, on y est bien. Quoi. Donc non, assez peu d'échecs une fois que les entreprises sont là. On l'a assez peu constaté, on n'a pas constaté du tout d'ailleurs. Par contre, évidemment, en cours de route, on arrête des projets, évidemment.
Dernièrement, vous avez tenu une réunion avec ces entreprises pour présenter notamment le crédit impôt innovation. Ça, c'est une nouveauté ?
Oui, c'est une nouveauté de la loi de finances de 2014. Effectivement, on peut considérer un élargissement d'un dispositif qui existait précédemment, qui s'appelait le crédit impôt recherche, qui sert à financer pour les entreprises les dépenses qu'elles engagent en recherche et développement. Ça concerne assez peu d'entreprises dans le département, encore moins d'entreprises en cours de création ou en parcours de création dans les trois premières années. Le crédit impôt innovation est plus large. Il prend en compte une notion d'innovation marché, d'innovation marketing, donc sur laquelle nous, on travaille beaucoup. Donc, justement, on était très attentifs à ce dispositif. Et ce dispositif va pouvoir concerner, évidemment, plus d'entreprises que ne concernait le CIR, qui était concerné par le CIR, crédit impôt recherche. Donc, c'est évidemment très intéressant.
Alors, c'est peut-être un pléonasme ce que je vais dire, mais les entreprises innovantes, c'est l'avenir ?
Oui, les entreprises innovantes, c'est l'avenir. On pourrait dire, pour donner un petit peu de contenu à cette affirmation, à cette sentence, mais qui est vraie, que le monde change et que les entreprises de dans pas très longtemps, de demain, hein, sont les entreprises d'aujourd'hui qui auront changé, ou de nouvelles entreprises. Mais on le voit bien dans l'agriculture actuellement, au salon de l'agriculture, dans le tourisme aussi, puisqu'il y avait les assises du tourisme. On le voit dans tous les secteurs d'activité. Il y a des transformations qui sont assez fortes. Il y a une transition écologique à gérer. Il y a l'arrivée du numérique qui s'impose dans tous les champs de l'économie. Il y a des changements de comportement qui sont liés aux nouveaux usages de nos nouveaux terminaux mobiles. Enfin bref, nos comportements, nous, on le voit au quotidien, changent. Bien entendu, les entreprises s'adaptent à ça puisqu'on a de nouveaux besoins et donc l'économie change. Et même en Lozère, bien entendu, heureusement aussi en Lozère.
Très bien. Laurentio, vous voulez
Oui, de précision et de complément à ce que me dit M. Auziol. Le premier, c'est que dans le cadre de la communauté de communes, donc présidée par Alain Bertrand, il y a un pôle économique qui vient d'être développé. Il y a un partenariat qui a été pris avec la CCI, bien entendu, et aussi avec Lozère Développement et M. Auziol, sur le développement, effectivement, faire venir des entreprises en Lozère, développer l'économie, créer de l'emploi. Et on est particulièrement sur le dossier de M. Marchal actuellement, puisqu'il vient d'obtenir, mes informations sont bonnes, son crédit impôt recherche, qui s'appelle maintenant crédit impôt innovation. Donc lui, ça va lui permettre effectivement de booster son activité et de peut-être s'installer en Lozère. En tous les cas, il en a fait le vœu de venir s'installer sur Mende.
Il est déjà en Lozère, hein, il est déjà installé.
Créer vraiment son entreprise qui permettrait d'aller de faire de la production. Et le deuxième aspect aussi qu'il faut peut-être souligner, c'est l'engagement de la région Languedoc-Roussillon aussi pour tout ce qui est innovation et entreprise nouvelle.
Oui, là, je rebondis parce que c'est évidemment le cas. Tous les dispositifs d'accompagnement qu'on met en œuvre à l'agence sont inspirés d'outils régionaux, notamment le réseau des pépinières d'entreprises innovantes et régionales, donc il est financé par la région Languedoc-Roussillon. Donc on s'appuie beaucoup sur les outils de la région, c'est vrai.
Très bien. Il faudrait imaginer que la Fédé de pêche se lie avec une entreprise innovante pour créer, je sais pas moi, des cuillères à tête chercheuse ou un truc comme ça. Peut-être que j'attraperai des poissons.
C'est pas tout à fait notre cœur de métier.
Mais ça va venir.
On va parler de la formation pour aller en stage.
Voilà, on va parler de pêche juste après. Merci beaucoup, Sébastien Auziol. On va suivre avec intérêt tous ces projets qui sont en cours. On pourra en parler des heures. On n'a pas ces heures devant nous, mais on reviendra.
Je reviendrai si vous m'invitez avec plaisir.
Il n'y a pas de souci, on vous réinvitera. Allez, seconde pause musicale et on finit en parlant de pêche.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
FM Le Mag.
Allez, c'est reparti pour la troisième partie de cette émission. On va parler avec, bien sûr, la Fédération de pêche. Et monsieur Maguigné, ça tombe bien parce que vous en faites partie aussi.
Ah oui, depuis de très nombreuses années. Je crois que je suis rentré à la Fédération comme conseiller technique en 1986. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Non, j'occupe actuellement les fonctions de président délégué de la Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de titre étant Alain Bertrand, sénateur maire de Mende, mais dont vous pouvez penser que c'est un homme très occupé et qui a souhaité me déléguer ses fonctions. Voilà, sachant que je suis à ses côtés depuis de très très nombreuses années.
Et vous connaissez parfaitement les cours d'eau, les types de poissons, la pêche dans le département.
On ne connaît jamais parfaitement, mais je prétends les connaître assez bien pour y avoir mouillé mes pantalons de pêche, mes bottes, mon fil, ma soie pour ma canne à mouches et mes mouches artificielles. Donc oui, je connais bien le département.
D'accord. Alors peut-être avant de parler de l'ouverture, il y a une action qui s'est déroulée dernièrement. Vous avez signé avec le SDIS, les sapeurs-pompiers, une convention. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Alors, nous avons signé avec le SDIS une convention qui consiste à mettre à disposition du service départemental d'incendie et de secours un de nos salariés, Sébastien Bordens, qui est technicien pisciculteur à la Canourgue, qui est sapeur-pompier volontaire. Et donc, nous nous sommes engagés à le libérer un certain nombre de journées par an. C'est quand même 5 jours, hein, Laurent, voilà. 5 jours par an, de façon à ce qu'il puisse assurer son rôle de citoyen, de sauveteur, de secouriste au profit de la population lozérienne. Moi, je suis très satisfait de la signature de cette convention parce que je considère que la solidarité est une valeur absolument fondamentale à nos sociétés et il est important pour les entreprises, hein, ou pour les associations, puisque nous sommes une association, de pouvoir mettre à disposition et de pouvoir faire bénéficier nos concitoyennes de compétences qui sont dans l'entreprise en matière de secourisme, de sécurité des citoyens. Voilà. Et en contrepartie, le SDIS fera une remise à niveau sur la formation des salariés, sur les formations pour ce qu'on appelle premier secours. Ça s'appelle plus tout à fait comme ça. Mais c'est vrai que nous avons des postes qui peuvent être exposés, notamment sur les établissements de production, les piscicultures. Et nous avons beaucoup d'agents de terrain. Donc c'est important qu'on puisse là aussi les mettre à niveau pour ce qui concerne leur formation.
Il y a un autre élément fort dans cette convention aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, pour la fédération, ça concerne un salarié, mais si demain, on a, comme on a en période hivernale 15 salariés et en période estivale plutôt 25-30 salariés, si d'aventure demain il devait y avoir d'autres employés de la fédération qui étaient intéressés par le bénévolat au sein des sapeurs-pompiers, il y a des formations préalables pour entrer dans les sapeurs-pompiers. Alors, dans les 3 premières années, on octroie 10 jours de mise à disposition pour justement que les jeunes, enfin, les personnes puissent faire les formations de sapeurs-pompiers dans de très bonnes conditions.
Ça, c'est, vous avez d'autres partenariats de ce type et même c'est ce genre de partenariat avec le SDIS, enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler au niveau d'associations, que ce soit lozérienne ou ailleurs. C'est une première ou pas?
C'est une des premières qui se signe. Alors, effectivement, ils ont l'habitude, le SDIS, de signer avec des collectivités. C'est par exemple, il y en a une qui est en cours de négociation, Amanda, au niveau de la mairie, au niveau de la communauté de communes, au niveau du CIS. Mais c'est plutôt, oui, traditionnellement, avec les collectivités. Avec les entreprises, je souhaite, enfin, je pense qu'ils souhaitent aussi que ça soit une première et qu'ils permettent d'aller vers d'autres entreprises, vers d'autres associations qui aussi s'engagent dans ce type de convention.
Voilà, ça, oui.
Oui, je vais être obligé de vous quitter. Donc, Laurent reprendra la suite pour vous expliciter à la fois les missions de la fédération et puis les événements tant attendus des pêcheurs lozériens qui viennent, sachant que l'ouverture sera le 8 mars prochain. C'est toujours le deuxième samedi du mois de mars et que nous avons eu déjà 2 ouvertures sur la Lozère, le 14 février avec nos sacs et le 21 février avec Villefort. C'est ça, Laurent? Donc, je suis obligé de vous quitter. Le seul message que je souhaite faire passer à tous vos auditeurs, c'est aller à la pêche. C'est un loisir facile. Nous avons un patrimoine extraordinaire dans ce département. Ce n'est pas cher. Et en plus, on peut y aller en famille. Et nous avons à la fois des rivières et des lacs qui permettent une belle pratique de la pêche à la truite dans ce département, mais même plus que la truite, puisque nous avons aussi des espèces de carnassiers sur Charpal et Nonsac. Voilà, toutes les pêches peuvent être pratiquées. À bientôt et merci de votre accueil.
Merci beaucoup. Oui, Laurentio, en effet, la pêche vient d'ouvrir sur 2 lacs, Villefort-Nonsac. Ça s'est bien passé?
Oui, les conditions par rapport aux 2 précédentes années étaient quasiment optimales cette année, même si sur Nonsac, il y avait un petit peu de vent. Par contre, à Villefort, il a fait un temps splendide, une météo excellente. Donc, il y avait plusieurs centaines de pêcheurs autour du lac sur les 2 jours.
On rappelle, il y a une nouveauté depuis 2-3 ans. On peut acheter sa carte de pêche par Internet.
Oui.
Et ça marche de plus en plus.
Alors, il y a un dispositif qui a été mis en place au niveau national par la Fédération nationale et qui permet effectivement à tout un chacun d'acheter sa carte de pêche pour son département. Ou quand on fait du tourisme pêche, d'aller acheter directement depuis la maison une carte pour n'importe quel département de France. On est sur des rythmes de progression, comme ça, c'est la 3e année de mise en place, qui sont très très forts, hein, puisqu'à aujourd'hui, si on compare le même jour de l'année dernière, on est à plus 50% encore. L'année dernière, on a vendu à peu près 40% des cartes via ce système. Donc globalement, ça progresse fortement. C'est un système qui va tendre à se généraliser, puisque sur le bassin versant Adour-Garonne, qui nous concerne majoritairement ici en Lozère, sur les 18 fédérations de pêche, sur les 18 départements, il y en a déjà la moitié qui sont toutes informatisées. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre en Lozère, puisqu'on a des coins qui sont un peu plus reculés. On tient, nous, beaucoup à notre réseau de dépositaires, qui sont un très bon réseau d'informations pour les pêcheurs, touristes ou locaux, et qui ils permettent de diffuser une bonne information. Donc on tient particulièrement à conserver notre rythme, notre panel de dépositaires, pardon. Et on va aller au rythme, on va informatiser au rythme et à la volonté des dépositaires. Donc aujourd'hui, on a 65 dépositaires sur le département. On n'en a qu'une quinzaine qui sont concernés, mais c'est les plus gros.
Alors c'est bien que vous parliez des touristes, parce que c'est vrai que quand on parle de pêche, y compris moi dans mes informations, on parle des pêcheurs toute l'année, les pêcheurs lozériens, mais c'est un atout touristique, on le sait notamment sur le lac de Villefort, où il y a un accueil pêche avec des stages proposés pour les enfants, etc.
Oui, alors il y a un double objectif à la pêche en Lozère. Il y a un objectif effectivement d'attirer des pêcheurs venant de l'extérieur, donc de faire de l'économie dans le département. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que bien souvent, ces pêcheurs, ils viennent hors de la saison principale touristique, c'est-à-dire hors des mois de juillet et d'août, parce que la pêche est intéressante en Lozère au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. L'été, c'est souvent plus difficile pour pêcher parce que les cours d'eau sont bas, les eaux sont plus chaudes, donc les poissons sont plus souvent cavés. Et puis, de nouveau, à l'automne, on retrouve un engouement. Donc, on essaye depuis de nombreuses années, on a des partenariats, notamment le comité départemental du tourisme, avec les guides de pêche qui sont installés, de dynamiser. Bon, c'est toujours difficile, hein, notamment en période de crise, de faire venir des gens de loin, mais... On a encore cette ambition cette année en proposant diverses animations, en structurant un réseau d'animateurs sur le département pour permettre effectivement de proposer plus de choses pour les pêcheurs venant de l'extérieur qui connaissent pas forcément le département et qui souhaitent soit s'initier à la pêche ou soit découvrir des coins de Lozère.
D'accord, on les attire plutôt sur les lacs, sur certains parcours de rivière, voire sur des parcours no-kill. C'est quoi les points de...
Alors, nos points d'accroche sur les 20 dernières années, c'est les parcours dits sanctués, des parcours spéciaux qu'on a créés, où les gens peuvent pêcher à toutes les techniques. Enfin, sur certains, pas sur tous, mais sur certains parcours, on peut pêcher à toutes les techniques autorisées en première catégorie. Et donc, ça nous constitue un pool et un spot. Et les gens viennent pour pratiquer sur ces parcours-là. Et bien entendu, sur les 20 dernières années, la pêche en lac s'est aussi fortement développée. On y a contribué par des opérations, comme vous le disiez, sur Nosac ou sur Villefort. Donc, mais on a quand même, globalement, un transfert des pêcheurs de rivière vers les lacs.
Pourquoi on veut des poissons toujours plus gros, c'est quoi ?
Pour ça, mais pas que pour ça. Parce que à partir du moment où on fait des empoissonnements réguliers en lac, les prises sont plus faciles. Il y a plus de convivialité à pêcher en lac parce qu'on peut pêcher entre copains, casser la croûte au bord de l'eau, boire un coup, etc. Alors qu'en rivière, sur les rivières telles qu'on les connaît en Lozère, c'est souvent un acte solitaire. Même si on part pêcher à deux ou trois ou quatre... l'acte de pêche, il va se pratiquer seul, puisque les rivières ne sont pas suffisamment importantes pour permettre de pêcher les uns à côté des autres. Enfin, voilà.
Alors, on a vu dernièrement dans la presse des articles par rapport à la pollution des cours d'eau et la fée de pêche. Nos cours d'eau sont pollués.
Globalement, sur les 30 ou 40 dernières années, la qualité de l'eau se dégrade. Mais malheureusement, il n'y a pas que c'est pas qu'un seul facteur qui est à l'origine de tout ça. Quoi. C'est tout un faisceau de facteurs qui font qu'on se retrouve avec de la qualité d'eau qui baisse. Alors, on peut citer le réchauffement climatique, qui a un impact sur l'hydrologie, avec moins de neige l'hiver, donc de l'eau qui tombe, qui part plus rapidement. Enfin, quand il pleut, l'eau part plus rapidement. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec des périodes en été où on a de plus basses eaux, des étiages plus sévères. Avec des étiages plus sévères, on a des remontées de température plus importantes. Donc tout ça, ça contribue à la dégradation de la qualité. Et c'est un facteur. Après, il y a d'autres facteurs qui sont mis en avant, comme l'agriculture, comme la forêt aussi, le développement de la forêt en Lozère, avec certains coins comme les Cévennes, par exemple, pour les nommer, où on a des boisements qui atteignent 70% de la surface du territoire. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact pour moi et sur la qualité et sur les quantités, puisque les arbres, ils vont prendre de l'eau au mois de juin et en période estivale. Et quand on est en tête de bassin, et ben, quand ils prennent de l'eau, ils gardent que le nutriment, ils rejettent dans l'atmosphère, mais ils ne rejettent pas dans le cours d'eau qu'il y a au pied, quoi.
C'est inquiétant. De manière globale, hein, je ne parle pas du cas Cévenol, c'est inquiétant.
Oui, c'est inquiétant parce que petit à petit, on perd en qualité sur des cours d'eau. Sur les têtes de bassin, il n'y a rien, quoi. Hein. Enfin, il ne devrait pas y avoir d'impact. On devrait être à des qualités optimales partout. Et ce n'est pas le cas. On n'est pas à des qualités optimales partout. Pour autant, il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Et on garde quand même un patrimoine un peu d'exception. Et des eaux qui sont relativement préservées par rapport à certains autres coins de France ou d'Europe.
On peut faire quelque chose pour aider à cette dépollution ou c'est fataliste enfin, fataliste à le réchauffement climatique, à moins d'appeler les Chinois et les USA pour dire « pense à nos cours d'eau ».
Non, il faut aussi... Alors si la Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection des milieux aquatiques... lâche l'affaire, comme on dit. On est très peu déjà d'associations environnementalistes à intervenir sur le fond dans le département. Donc si nous, on lâche l'affaire, c'est un peu perdu. Donc il faut continuer le combat sur tout un tas d'aspects, sur les pollutions des villages et des villes, sur faire des actions, ce qu'on fait depuis déjà de nombreuses années, et ça porte petit à petit ses fruits sur l'agriculture, où on arrive maintenant à faire entendre certains éléments aux agriculteurs. Il y a des prises de conscience qui se sont faites sur les 20 dernières années. C'est très bien, il y a encore des efforts à faire, très certainement. Pour autant, il faut que les agriculteurs puissent vivre encore sur le territoire. Donc ça, c'est un élément fort. Il faut continuer. Alors on travaille aujourd'hui beaucoup avec Copage, qui est la partie environnementale ou agro-environnemental de la Chambre d'agriculture, sur des actions fortes. Il faut continuer ce travail-là. Il faut continuer à faire admettre aux forestiers qu'ils admettent aujourd'hui qu'on ne peut pas planter des résineux en bordure, à proximité immédiate de cours d'eau, ou parfois même, comme ça a été fait par le passé, directement dans les cours d'eau. On avance quand même, il y a des idées qui progressent. Après, sur le réchauffement climatique, le fait qu'il neige plus comme il pouvait neiger il y a 40 ans, ça sera plus long.
Ça sera plus compliqué, oui. Il y a des poissons en ce moment. On sait que si cette ouverture va nous permettre d'avoir des truites de taille suffisante pour qu'elles passent la maille.
Alors, il y a des poissons dans les cours d'eau. Que les pêcheurs les prennent, après, c'est une autre paire de manches. Parce qu'effectivement, il faut que les conditions soient réunies donc, d'ici moins de 15 jours. Donc, pour le 8 mars, ce n'est pas certain parce qu'on peut avoir un coup d'eau. On peut avoir de la fonte d'eau de neige, donc de l'eau froide, donc des poissons peu actifs. Donc tout ce faisceau d'éléments font que je suis incapable de vous dire aujourd'hui si l'ouverture sera bonne. Cela dit, si dans la journée, il y a un moment de soleil, et ça partout sur le département, et que les pêcheurs aillent chercher un peu les truites là où le soleil tape un peu sur la rivière, c'est bien possible qu'ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu.
Très bien, mais merci beaucoup Laurent Sion. Le rappel, c'est le 8 mars, cette ouverture en rivière.
C'est l'ouverture générale, oui.
C'est l'ouverture générale jusqu'en septembre.
Jusqu'au 3e dimanche de septembre, donc le 21 septembre. Et la règle sur les lacs est un peu différente, puisque Charpal, par exemple, va ouvrir qu'à partir du 1er mai, fermera le 31 décembre. Nossac, il est déjà ouvert, vous l'avez dit. Donc lui aussi, il va fermer le 31 décembre. Et Villefort fermera le 31 octobre.
Voilà, pour 16 000 à peu près pêcheurs.
C'est 16 000 pêcheurs en 2013, oui.
Voilà, bah écoutez, on peut récupérer cette carte de pêche, l'acheter sur Internet ou chez votre revendeur habituel, on vient de le dire. Et pêcher d'ores et déjà sur les cours d'eau. Merci Aurélie.
Merci à tous.
Merci à vous.
Merci Laurent, à bientôt.